Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Charline Vermont. À l'occasion de la publication de son ouvrage « Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser de questions » aux éditions Albin Michel. C'est parti. Bonsoir Charline.
Bonsoir Sozy.
C'est incroyable la masse de travail que tu as fait pour ce nouveau livre.
Ouais.
On s'est dit que ça avait dû être une sacrée aventure ce deuxième tome.
Oui, c'est 18 mois de travail. En fait, moi j'avais comme élément de comparaison juste le livre précédent qui m'a coulé des doigts, si je puis dire. En 4 mois, il y avait quelque chose de très, déjà très abouti, même s'il y a eu du travail derrière. Là, ce livre-là, il était très long, en fait, finalement. La première version finie, complète, elle est arrivée au mois de juillet, tu vois. Et donc très, très tardivement. Et j'étais absolument pas sûre de pouvoir le sortir en octobre comme on l'avait prévu avec Albin. Je pense qu'il y a même des moments au mois de mai où je leur ai dit, vous savez, je pense que ça va pas le faire. Je pense que entre le conte qui me prend beaucoup d'énergie, d'amour, de passion et mes enfants, et je vais pas y arriver. Et ce qui était fou, c'est que quand j'ai relu le livre, tu sais, il y avait même des passages, je sais pas si j'ai le droit de le dire, j'avais oublié certains passages que j'avais écrits tellement je les avais écrits il y a longtemps dans le temps et tellement il y avait eu de passages entre guillemets depuis d'écriture. Et j'ai envie de dire aussi, je pense que j'en ai parlé dans ma communauté, la santé mentale, c'est un élément dont on parle pas beaucoup, mais moi, il y a eu des moments plus difficiles peut-être que ça durant ces derniers 18 mois, des moments où je me suis pas retrouvée, j'arrivais pas à m'équilibrer, et des moments où j'étais dans le dur, pour dire les choses. Et je crois qu'au moment où vraiment le livraire est arrivé et que j'ai vu ce bébé dans mes mains, en fait, je crois que j'ai décompensé de fou. En fait, j'étais là en mode, c'est tous ces moments où tu crois plus en toi, où t'appelles ton éditeur, ta maison d'édition en disant, vous savez, peut-être que je me suis trompée. Je vais donnez-moi votre rib, je vous rembourse la valoir et puis en fait je vais pas écrire ce livre parce qu'en fait il est trop nul, ce que je vous ai envoyé c'est trop nul, mettez-le à la poubelle, oubliez, en fait ça va pas le faire, je suis pas à la hauteur, trouvez quelqu'un d'autre. Et en fait peut-être c'est aussi le moment, je vais essayer de pas pleurer, de rendre grâce à toutes ces personnes avec qui je travaille, j'ai travaillé sur le premier livre et avec qui j'ai retravaillé sur ce deuxième livre. Donc sachez qu'il y a mon nom sur la couve. En réalité, c'est un gang de meufs extraordinaires qui est à mes côtés. C'est 7 personnes, entre l'illustratrice Stomy Buzzy, mes éditrices chez Albin, Sophie Nanteuil, ma maquettiste, et également toutes les personnes autour du projet éditorial qui ont été là et qui m'appelaient et qui me soutenaient. Mais H24, pour dire en fait, Charline, on croit en toi. Il n'y a aucun problème, ce livre, tu vas le finir. À ton rythme, on est là, quoi qu'il arrive. Et t'inquiète pas, ça sera un chef-d'œuvre. Donc en fait, arrête de douter, on est là, on va te porter jusqu'au bout. Et vraiment, j'ai eu cette sensation d'être portée par plein de femmes hyper puissantes et hyper humbles en même temps. Et voilà, ce que vous voyez aujourd'hui, rappelez-vous simplement que c'est 18 mois d'un travail collectif avec des passages hyper difficiles et en même temps, des moments de grâce, des moments humains très forts. Parce que moi, du coup, je me suis vraiment raccrochée à ces meufs extraordinaires. Voilà.
Ben, bravo. Oui, ça, on imagine bien que de faire tout ce travail-là qui, en plus, va aller dans ton cœur de métier, en fait, c'est des choses dont tu parles beaucoup. Tu fais déjà un travail assez important sur les réseaux de transmission, de vulgarisation, vraiment d'aller aider ta fameuse commu à accéder à ces contenus. Mais de se dire qu'en plus de ça, en fait, de tout ce travail-là, tu vas repasser du temps pour le mettre en livre.
Ouais.
Pour toi, cette transmission-là, de se dire, les réseaux, d'une certaine manière, ça ne suffit pas, il faut qu'on complète d'un livre. C'était dans quel but, en fait, tu as créé ce livre? Peut-être pour l'archive.
C'est une très, très bonne question. D'abord parce que c'est un peu ce que je disais dans ma vidéo, je crois, en début de semaine. Instagram, c'est le bordel. Je suis désolée, c'est une plateforme merveilleuse pour plein de choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est quand on cherche une information sur mon compte, bah en fait, c'est l'enfer. C'est-à-dire, entre, y a 100 stories à la une et on ne peut pas en mettre plus que 100. Parce que la réalité, c'est qu'elle elle s'élimine à mesure que tu en rajoutes. Tu vois, enfin, en réalité, moi, j'en aurais bien mis 200. Voilà, il y a des réels, des posts, etc. Quand les gens te posent une question, tu ne peux pas les renvoyer à quelque chose qui a déjà été travaillé, abordé, sourcé, etc. Donc, je pense qu'il y avait un besoin, mais réel, de me dire, on cherche une info, on a la réponse immédiatement, et ça, il faut quelque chose de structuré. Et la première chose, et pour moi, enfin, je trouve que c'est hyper important, c'est une question aussi de respect des personnes, c'est de pouvoir apporter une réponse structurée et rapide, d'où, voilà, enfin, je pense que le sommaire, les questions, l'index, pour moi, c'était essentiel, première chose. Deuxième chose, enfin, je sais pas si, je pense que tout le monde a en tête ce que Twitter a traversé avec l'arrivée d'Elon Musk à sa tête. En fait, on n'a aucune certitude que Twitter va continuer à exister dans quelques temps. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui me garantit que Insta, ça va encore exister dans quelques années? Je rappelle également que mon compte a déjà été supprimé, désactivé par Instagram. Donc, en fait, il y a aussi cette perception d'une forme de vulnérabilité, de fragilité, où moi, je suis complètement dépendante du bon vouloir de personnes à qui on peut jamais parler, qui sont une espèce de boîte noire. Je me dis, bah, en fait, si demain Instagram décide, avec la pression de puritains américains, que bah, on n'a plus le droit du tout de parler d'éducation ou de santé sexuelle, mon compte, il a disparu et tout ce qu'on a construit ensemble, bon, pchit, fini. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est un peu ce que je dis à toutes les personnes qui venaient faire dédicacer, qui sont soit simplement des bons potes, parrains, marraines, famille, etc., ou des professeurs des écoles, ou des professionnels de santé qui me disent bah, « ce livre, en fait, je le fais rayonner, je le passe, etc. » Pour moi, c'était important que ce livre... finalement, bah, chacune puisse s'en emparer et derrière, en fait, faire monter tout le monde en compétence. C'est comme si vous deveniez, vous, demain, presque des formateuristes, en fait, sur tous les sujets que, voilà, que vous avez bûché, dont vous vous êtes emparé, et à votre tour, vous pouvez transmettre, parce que, en fait, je suis pas éternelle. Il y a un jour où peut-être je passerai à autre chose. Moi, ce qui est important, c'est que, eh ben, maintenant, vous êtes vous, tout un chacun, chacune, les vecteurs de cette transmission, de cette éducation. Et pour moi, c'était juste important que vous, voilà, vous ayez un ouvrage sur lequel vous appuyez pour derrière transmettre.
Oui, mais on sent bien que tout ce que tu viens de dire dans les formulations, les façons en fait d'aborder les sujets. On voit bien que tu as mis un soin très 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 particulier à la précision. Enfin, j'ai lu ta table des matières. J'ai l'impression que c'est un roman, que tu peux complètement inventer 50 millions d'histoires à partir juste de tes intitulés. Mais ce qui m'a d'autant plus happée, enfin où je me suis vraiment dit mais quel boulot, c'est qu'en fait à chaque fois ta façon de formuler les questions sont suffisamment précises pour qu'en effet la personne qui est dans une urgence de savoir, ouais, c'est-à-dire il m'est arrivé ça, je dois avoir la réponse dans la seconde, ouais, ben, y a un peu un remplacement du Google où on tape n'importe, ouais, quoi pour avoir la réponse la plus précise possible. Mais toi, en fait, tu as fait déjà ce travail-là où dès qu'on a un malaise, un truc qui nous dérange, ben, on a l'intitulé, on a directement la réponse, quoi. Et ça, je me suis dit, mais quel travail de reformulation. Enfin, je t'imagine face à chaque sujet, te dire, bon alors... Tout ce qui peut rentrer dans une seule phrase, ouais, pour que la personne qui a besoin de cette information, celle-là, soit redirigée vers la bonne. Quel travail, quoi.
Merci, en fait. Juste, Swazig, merci de me dire ça, parce que je crois que... Enfin, tu vois, c'est quoi? C'est ce qui se passe, s'énonce clairement. En fait, il y a un truc, en fait, de retravail, effectivement, de la formule. L'objectif, c'est de rendre le livre le plus accessible possible à tout le monde. Et effectivement... parce que des livres en santé sexuelle, on en trouve, voilà, on peut en faire, etc. Mais, et c'était un peu les discussions qu'on avait avec ma maison d'édition, il y avait une obsession chez moi, une obsession de la fluidité. Je veux qu'en fait, ça coule. Donc, il y a une personne qui m'a dit, je l'ai lu d'une traite. Première personne qui m'a écrit ce matin en me disant, ah, ok, donc en fait, ce livre, on peut le... Voilà, il est fluide. Et la deuxième chose, c'est que je dis, Il faut pas oublier, et ça c'est peut-être le côté vraiment éducation populaire, que quand on s'adresse à des personnes, moi je le vois quand j'interviens dans les établissements scolaires ou même auprès de pros de santé, en fait on a face à nous des personnes qui sont à différents niveaux d'éducation, de déconstruction, d'expérience de vie. Et il y a ce que j'appelle, il y a les niveaux 1, il y a les niveaux 2, puis il y a les niveaux 10. Et moi mon objectif, hein, c'était que le livre, les personnes qui soient au niveau 1 puissent le lire et que les personnes qui soient au niveau 10 ne se sentent pas prises pour des imbéciles. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'était vraiment une espèce de pouvoir mettre à disposition et que tout le monde puisse s'en emparer et en même temps, à chaque fois, faire comprendre à quel point je valorise la personne que j'ai en face de moi. C'est peut-être simplement l'envie de prendre soin de l'autre.
C'est qu'on a parfois des questionnements qui révèle aussi de ce qu'on nous transmet de la société, parce que typiquement, moi, ma génération, ta génération, on n'a pas eu d'éducation positive à la sexualité, on a eu plutôt des éducations aux pathologies de la sexualité, et ça pose une problématique, en fait, de la façon dont on aborde cette fameuse sexualité, alors qui peut être entendue comme intimité, mais qui regroupe corps, amour, sexualité, et de se dire que on peut être en détresse, on peut avoir besoin d'une information qui on est en panique en fait quand tu parles des IST, quand tu parles des violences sexuelles, mais quand tu parles aussi des normalités, c'est-à-dire quand on a l'impression d'être pas normal, toi tu recadres en disant alors attention guillemets, ça veut dire quoi être normal, ça veut dire, enfin tu vois, tu nous drives quand même beaucoup pour nous calmer.
Oui, l'objectif c'est l'apaisement. Enfin, je pense que on est quand même la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que je suis normale est-ce que je vis est normal ou est-ce que je suis normale, et je pense que l'objectif premier en fait de ce livre, c'est simplement de légitimer tous les vécus et toutes les évidemment toutes les identités, toutes les orientations, mais pas seulement, également les trajectoires qu'on choisisse de vivre avec plusieurs partenaires, qu'on choisisse de ne pas avoir envie de se poser, de pas avoir de relations sexuelles. En fait, la réalité, c'est que on a une multitude de trajectoires possibles, et c'est juste qu'on nous a effectivement tellement éduqués avec un spectre qui était ridicule sur la sexualité, ça doit être ça. Je pense qu'il y avait aussi une vraie envie de dire non mais ça, est-ce que je peux, attends, je te prends le livre une seule seconde, je vais vous donner un exemple en image. Je pense que c'est ma planche mais préférée de tout le livre. C'était d'ailleurs, je voulais le mettre en feuilletage sur les sites genre Fnac, Amazon. On m'a dit que ça allait cancel le book, donc je peux pas le mettre. Je suis désolée, donc vous pouvez pas le voir. Mais voilà, c'est cette planche là. Voilà, par exemple, c'est comment on fait l'amour. Je crois que c'est une des planches vraiment chouchou en fait de tout le bouquin. À commencer par ça, c'est-à-dire la réalité. Je pense aux personnes hétéros. En fait, pour la plupart des personnes hétéros, faire l'amour, c'est cette espèce de machin. Voilà, donc on est sur un spectre ridicule. Moi, j'avais vraiment juste envie de dire, mais c'est tellement plus que ça. Mmh. Et quelque part, on repense à la fois les représentations, on repense l'imaginaire érotique de l'intime, de l'amour. Et du coup, de facto, il y a plein de personnes qui pensaient être complètement dans une forme d'anormalité parce qu'en dehors du micro-spectre qu'on nous a défini comme étant « voici à quoi devrait ressembler une relation », et en fait, qui vont se dire « mais en fait, tout va bien ». Je fais « bah ouais, tout va bien ». C'est hyper cool. C'est ça. Et puis, à côté de ces sujets-là, il y a, enfin, effectivement, quand on aborde le sujet du consentement, là, il y a une personne qui est venue à la dédicace, qui est repartie tout à l'heure, qui m'a dit « j'ai ouvert le livre, donc sur le chapitre consentement ». Sur chapitre notamment le consentement au sein du couple, parce que c'est un sujet, il y a une question texto, c'est comment gérer le consentement quand il y a une différence de libido au sein du couple. Je pense pouvoir dire, quasi sans me tromper, que ça concernera à un moment donné 100% des couples. C'est une vraie question. Malheureusement, il y a plein de personnes pour qui ce sujet, ça a été un vécu qui est... elle m'a dit, j'ai ouvert ton livre, je suis tombée sur cette page-là, j'ai commencé à lire, puis je l'ai fermée immédiatement pour pas commencer à pleurer. Voilà, donc on est vraiment aussi sur des sujets d'intimité où, je pense que le fait de pouvoir poser également les mots sur ça c'est ok, mais à côté de ça, je vais aussi poser les mots à l'inverse en disant ça c'est pas du tout ok, ça c'est pas normal, là vous avez besoin d'aide. Et voilà, et c'est aussi pour plein de personnes qui m'ont écrit déjà des la sortie du livre, donc dans les dernières 24 heures, en disant ce chapitre-là et la manière avec laquelle tu abordes le consentement, mais les violences également sexuelles, etc., ça m'a énormément fait du bien, parce que c'est aussi un... On légitime un vécu qui a été ressenti par les personnes concernées comme... ça, c'est des violences. Et voilà, c'est aussi... donc je dis que c'est OK, mais il y a aussi clairement des moments où je suis complètement dans l'accompagnement des victimes.
Oui, mais c'est c'est-à-dire que ton livre, c'est un spectre très large. C'est-à-dire que... on a... en train de remettre son costume.
Je remets en place mon réservoir.
Parce que on a évidemment, comme tu le disais, des livres sur la santé sexuelle. On en a déjà vu, il y en existe, etc. Pour autant, on a parfois tendance à avoir des choses rapides, c'est-à-dire on va parler de plein de sujets les uns après les autres, mais on va en effet peut-être pas faire le tour de toute la question. Et là, j'ai l'impression que vraiment à chaque fois pour chaque thématique, tu t'es dit bon alors quelles sont toutes les questions possibles et imaginables à tous les endroits. Donc que ce soit de l'estime de soi, qui est un de tes chapitres, merci, mais aussi du corps. Ouais. Parce qu'on pourrait partir du principe qu'un public adulte puisse déjà savoir à peu près si tu es vulve, vagin, testicule, pénis, etc. Mais en fait, tu prends le temps, malgré tout, on repose la base, en fait. C'est-à-dire, déjà, il y a de la mécanique. Et ensuite, il y a des premières choses qui se passent. Puis ensuite, il y a les sentiments, l'affection, les choses de l'intime qui arrivent. Et puis, il y a toutes les problématiques inhérentes à ça. Et j'ai trouvé que ton chemin narratif était vraiment très chouette et beaucoup plus large que ce qui existait déjà. Donc oui, des choses existent, mais celui-là n'existait pas.
C'est gentil de me dire ça.
Ah bah attends.
Mais quand même, est-ce que je peux rendre grâce à la communauté ? Donc, vous êtes des représentants de la communauté, représentantes. Parce que, en fait, avant d'écrire ce livre, j'ai également fait, comme pour le livre pour les enfants, des boîtes à questions. En fait, où je vous ai effectivement demandé quelles étaient les questions que vous posiez. Alors, à l'époque, je pense que ce livre, il avait été. À la base, c'était. Il faut écrire la suite du premier livre. En tout cas, les gens me disaient et la suite. Et du coup, je pense que la boîte à questions, c'était vraiment qu'est-ce que vous auriez eu besoin de savoir avant de débuter votre vie affective et sexuelle. Je crois que c'était ça la boîte à questions. Et en écrivant ce livre, donc dans ma tête, c'était, tu vois, le premier, il est pour les 5-14, donc là, j'étais pour les ados. Et en réalité, je me suis rendu compte que quasi 100% des questions que je recevais, peut-être pas 95% des questions que je reçois au quotidien sur mon compte, donc en moyenne sur le compte, il y a 500 messages par jour, on est à 3000 semaines. En réalité, j'avais envie de les renvoyer à des choses que j'étais en train d'écrire pour entre guillemets, les ados. Mais les ados, ça veut rien dire, parce qu'il y a des ados de 12 et des ados de 17. Donc pour moi, je me suis vraiment rendu compte c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une version enrichie. À la base, c'était 5-12. Et je me suis dit, en réalité, je vais pas vous mentir, il faut que je puisse être hyper explicite dans ce livre. Au début, on était sur 5-12 et après, genre 12 et plus. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, en fait, ça va pas le faire. Il faut absolument que je voie les choses différemment. Et j'ai dit à ma maison d'édition, voilà, il y a des trous dans la raquette, des 100 questions, des gens qui m'ont monté des choses qui n'y étaient pas. Il y a des choses que j'ai envie de dire également pour monter en gros jusqu'à la fin du collège sur la première édition. Donc, il y a eu une étape intermédiaire, c'est qu'on a écrit les 120 questions. Et là, j'ai bordé tout ce que j'avais envie de border pour les 5-14. Et après, je me suis dit, je vais faire un livre qui soit à la fois accessible aux personnes qui vont débuter leur vie affective sexuelle, et que tous les adultes, en fait, vont pouvoir s'approprier et je vais parler d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a rien de plus qu'un ado déteste qu'on le prenne pour un ado. Finalement, un ado, c'est un adulte en devenir. Et moi, quand j'interviens dans les lycées, je leur parle comme à des grandes personnes, entre guillemets. Et le fait de valoriser, je pense, ça les aide énormément à accrocher au discours. C'est vraiment infantilisé, ça ne sert à rien. Au contraire, je pense que les ados de 15 ans en savent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, surtout la génération d'aujourd'hui. Alors du coup, ce qui était certain, c'était que j'avais envie de leur donner toutes les connaissances, tous les outils, tout ce que j'aimerais en fait, tout le corpus finalement, que j'aimerais que tout le monde est à disposition, mais qu'on soit en début ou qu'on soit vraiment sexuellement sexuel actif depuis des années, parce que comme nous, on n'a rien eu. Alors certes, sur le compte, il y a quand même des choses, mais malgré tout, il y a plein de choses qui sont dans ce livre qui ne sont pas sur le compte, parce que censure sur Instagram, je ne peux pas le raconter, et surtout, je ne peux pas le montrer. Donc les dessins, c'était comme la double planche que je vous ai montrée, je voulais des trucs hyper explicites, je voulais un langage et des bandes dessinées, pareil, très explicites, très libres, avec des choses que je dénonce, que je ne peux pas dénoncer chez moi sans me faire... Shadowban, voir mes comptes, mes posts supprimés. Vraiment, je me suis réorientée vers un discours en me disant, je vais parler aux adultes, voilà, à toutes les personnes adultes, tout en vraiment en ayant en tête que à partir de l'âge de 15 ans, les adultes en devenir, donc la majorité sexuelle étant passée, et globalement, c'est l'âge des premiers flirts, des premières relations, et ben voilà, tout le monde puisse se l'approprier. D'où aussi la nécessité de faire quelque chose d'accessible. Ah ouais. Ce que j'ai apporté à Albin, en fait, cette espèce de... J'ai pas lâché mon morceau. Je leur ai dit, je veux des dessins à toutes les pages. Je leur ai dit, moi... Et puis aussi, il y a plein de choses que je pourrais écrire, genre en mode, ben voilà, enfin, une espèce de langage un peu en mode édito. Voilà, mon opinion sur tel ou tel sujet. Et mais je trouvais que d'abord que c'était un manque absolu d'humilité et que ça me fait chier en fait de me mettre en avant comme ça. C'est pas un hasard si sur mon compte il y a beaucoup de témoignages, parce que moi ça me va bien aussi quand même d'être un peu cachée et de laisser les autres aussi prendre la parole sur plein de sujets, voilà, et apporter un complément d'information. Mais la réalité c'est que tous ces vécus-là, ils sont tellement significatifs, ils sont tellement riches d'enseignements, il y a une telle intelligence collective finalement qui demande à être révélée, et ben j'ai voulu l'utiliser aussi dans ce livre. Donc sachez également que la plupart des bandes dessinées que vous voyez en fait dans ce livre sont inspirées de choses que j'ai pu lire depuis 4 ans et demi sur mon compte. C'est vraiment, quelque part, c'est du vécu, c'est du réel. Alors effectivement, derrière, on rajoute évidemment de la fiction, il y a des personnages, etc. Mais la réalité, c'est que voilà, ce mix, avec beaucoup d'illustrations explicites et de la bande dessinée, et c'est ce que j'ai demandé à Stomy, j'ai dit, en fait, je veux... Les gens, ils restent... Enfin, ils viennent sur le compte parce qu'en fait, on se poile. Enfin, voilà, c'est-à-dire, si on parle de cul... comme je parle, moi, je donne des cours à des professionnels de santé à la Sorbonne. Je suis enseignante en DU de santé sexuelle. J'ai que des pros de santé. Mes cours à la Sorbonne, ils sont très précis, très rigoureux, très scientifiques. Mais ils sont chiants, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des cours magistraux, quoi, de santé sexuelle. Et sur le compte, j'ai une autre casquette de... ici, on parle de choses de manière aussi un peu plus légère, positive. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais que cette espèce d'esprit où on peut se poêler, en fait, et que c'est OK, on le retrouve dans les bandes dessinées. C'était recueillir auprès de la communauté les questions. Derrière, faire un immense travail. Moi, j'avais un tableau Excel de 4000 lignes.
Là, on entend bien que tu as dû élaguer. Voilà. Et malgré tout, la façon dont on peut lire ton livre, elle est très accessible. C'est-à-dire que ce n'est pas des gros pavés de texte. À chaque fois, tu vas à l'essentiel. Et je pense que de ce fait, tout le travail qui a dû être, je m'en rends bien compte, extrêmement intense des questions, fait que, en fait, au final, même s'il faut tout lire, rien que de lire la table des matières, ça montre déjà beaucoup de choses de ton déroulé. Et dans ces moments-là, ça veut dire vraiment qu'en fait, le travail éditorial est hyper bien pensé, parce qu'on se dit rien n'est gaspillé. C'est-à-dire la question, en fait, elle est déjà importante. Ouais. Et c'est comme beaucoup de choses quand on commence à se poser des questions sur soi, etc. La question est déjà hyper importante.
La question est déjà hyper importante. Pour moi, c'était du coup important de ne pas faire des thèmes simplement en disant les testicules, l'anus. Effectivement, c'est comment prendre du plaisir avec les testicules. Enfin, tu vois, effectivement, rien que la question, en fait, elle-même, effectivement, est porteuse de sens. Enfin, ça, se poser la question, c'est déjà cool, quoi.
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ça. Déjà, se poser la question, c'est cool. Mais dans la mesure où on ne se la pose pas, c'est aussi cool de se demander pourquoi on ne se la pose pas. Et de se rendre compte de l'endroit où on se situe, en fait. Exactement. Parce que, et tu vas vraiment prendre ce temps-là d'aller shooter les idées reçues, d'aller te t'attaquer à des mots quand même assez forts qui, dans le paysage de la sexualité, des sexualités, et de se dire « Non mais ça, en vrai, c'est absurde. Ça, on va arrêter d'en parler comme ça. Ça, on va plutôt parler de toutes ces choses-là autour, etc. » Et je trouve que, de ce fait, on voit bien, comme tu le disais, tout ton axe d'éducation populaire.
Ouais.
Bah, c'est pour ça aussi la force de ta communauté. C'est le collectif qui ouais. fait ensemble, grâce à des personnes ressources, en fait. Et ça, c'est le, enfin, limite, je trouve qu'il y aurait pu avoir un truc sur l'éducation populaire, de dire, c'est quoi cette démarche-là?
Ouais.
Parce que c'est ce qui, dans ouais. notre avenir, va être hyper important de mettre en place, je trouve.
Ouais, je suis assez d'accord dans le sens où il y a une intelligence collective, c'est-à-dire ce livre n'existerait pas sans l'intelligence collective de la communauté. Et c'est ce que je dis souvent, là, très récemment, j'intervenais encore auprès de mon patron, il déteste que je l'appelle comme ça, c'est le professeur Jacques Nizard qui dirige le DU de santé sexuelle à la Sorbonne, dans lequel j'enseigne, qui est chef de service de gynécologie obstétrique à la Salpêtrière à Paris, et qui disait en fait, effectivement, ta force, c'est d'accueillir presque sur un même plan, à la fois le côté très scientifique. Alors moi, mes parents sont médecins, donc je pense qu'ils m'ont un peu légué cette espèce de rigueur, c'est-à-dire t'apportes une information, c'est quoi ta source ? Voilà, tu vas sourcer, tu te remets en question, il y a des publications où tu vas t'appuyer dessus, mais en fait, 2 ans plus tard, il va y avoir une autre publication qui va détruire parce que l'échantillon n'était pas correct, parce que les facteurs prédictifs identifiés, en fait, c'était absolument pas du tout significatif dans l'étude suivante. Donc je pense qu'ils m'ont vraiment donné cette espèce d'abord d'approche un peu scientifique, rigoureuse, itérative, mais c'est pas suffisant parce que on sort à peine et on n'est pas complètement sorti finalement d'un champ en termes de santé sexuelle qui est encore très largement ce que j'appelle de la sexo à papa. C'est-à-dire finalement, il faut appeler un chat, l'essentiel de la santé sexuelle et reproductive était quand même très orienté reproductive. C'est-à-dire on s'intéressait aux problématiques sexuelles que quand il s'agissait de problèmes érectiles, donc on a été très prompte à faire du Viagra avant même de savoir à quoi ressemblait un clito. On est quand même très attaché à toutes les problématiques liées aux douleurs et aux dyspareunies. Mais pourquoi on s'y attache? Parce que finalement, les dyspareunies, notamment, tout ce qui est vaginisme et autres difficultés qui empêchent l'intromission d'un pénis dans un vagin, parce que quelque part, c'est un obstacle à la reproduction. Et on ne s'intéressait à toutes ces problématiques sexuelles que parce que finalement, elles empêchaient la reproduction. Et encore beaucoup de sujets aujourd'hui ne tournent finalement que du coup on est sur un truc hyper hétéro, cis-hétéro-centré, hyper reproductif, hein, on est sur un truc mais qui date d'un autre siècle. Et arriver en fait à trouver aujourd'hui de l'information en santé sexuelle scientifique, alors il y en a de plus en plus, heureusement, mais c'est très récent. Enfin, je te parle de... On est sur des études qui ont maximum 5-10 ans, où on a un corpus qui a fait... Enfin, il y en a autant en 5-10 ans que dans les 50 années qui ont précédé, peut-être, d'abord. Mais en attendant qu'on ait un corpus scientifique suffisant, d'une bibliographie qui soit... qui commence à devenir importante, il y a une intelligence collective qui ne demande qu'à être révélée. C'est ce que je dis souvent sur mon compte. Moi, j'apporte 2-3 informations que je source avec ce qui existe, et puis derrière, la parole est à la communauté. La réalité, c'est que quand on a une difficulté, un obstacle, une problématique dans notre sexualité, alors, spoiler alerte, on n'est jamais la première personne à l'avoir vécu. C'est-à-dire, il y a toujours des personnes qui ont été exactement dans cette situation avant. La question, c'est comment toutes ces personnes, elles ont réussi soit à contourner l'obstacle, soit à le dépasser, soit à rabaisser... Enfin, voilà, bref, toutes les manières, en fait, qu'on a pour avancer, eh bien, c'est une multitude de solutions. C'est ce que j'appelle une intelligence collective qui... Derrière, en fait, quand je distribue la parole à ma communauté, mais ça donne des trucs ultra intéressants, presque. Enfin, tu vois, donc pour moi, c'est complémentaire à ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Et je pense que, pour moi, l'éducation populaire, c'est vraiment aussi, et je pense que c'est un peu ça qui me lie particulièrement à cette communauté, c'est qu'il n'y a pas une sachante et des gens qui... En fait, moi, j'apprends autant chaque jour de ma communauté que la communauté peut apprendre de moi. Finalement, j'ai cette sensation d'être une chef d'orchestre avec plein d'instruments merveilleux, merveilleuses, et qui... voilà, enfin, on n'a pas forcément, on nous a pas forcément donné notre place, la place qu'on voulait dans l'orchestre. On nous a pas forcément donné un instrument qui fonctionnait. Donc voilà, il faut l'apprivoiser parfois un peu. Mais la réalité, c'est que moi, je suis que, enfin voilà, je permets à une espèce de symphonie qui a lieu sur mon compte d'avoir lieu. Mais vraiment, je valorise tellement, tellement tout ce que les gens savent déjà. Voilà, c'est pour moi aussi ça, l'éducation populaire. C'est aussi se mettre vraiment à la hauteur des autres. Et voilà, et je pense qu'encore une fois, tout ce que je fais dire aux persos dans les bandes dessinées, quasiment, c'est des choses voilà, sur lesquelles j'ai échangé avec ma communauté. Et voilà, il n'y avait aucun sens à ce que ce soit en mode édito ou magistral. D'abord parce que la sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement humain. Finalement, cette éducation populaire dont je parle à l'instant, eh ben, la communauté, je l'ai un peu représentée à travers des persos. Donc il y a 7 personnages qui vivent ensemble et que j'ai surnommé la colloque de l'amour. Ces persos, ben, j'espère en fait qu'on est tous, je pense, un mix de plusieurs persos. Voilà, y a des choses qui nous ressemblent. Évidemment, c'est une commu... et c'est des c'est une, voilà c'est on n'est pas dans la stricte on n'est pas dans la norme cisgenre hétéro. Je pense que j'avais besoin en fait ne serait-ce qu'à titre personnel de me retrouver dans des persos, et puis voilà, de me dire toutes ces personnes qui m'écrivent chaque jour, voilà, j'avais envie de leur donner finalement vie, corps, parce que moi je vois des pseudos sur Instagram quelque part, je vois pas toujours vos têtes. Donc j'ai aussi, voilà, je me suis dit, tiens, on va inventer 7 personnages qui ressemblent beaucoup, en fait, aux personnes avec qui j'échange au quotidien. Et du coup, tout au long, en fait, tout au long de ce livre, en fait, on va suivre les aventures de ces 7 persos. Voilà, toutes ces bandes dessinées, eh bien, c'est vous, la commu, c'est cette fameuse intelligence, voilà. Et puis, en fait, les persos se répondent entre eux, vous voyez ? C'est-à-dire, eh ben voilà, c'est-à-dire, en fait, on s'éduque également en ayant des discussions passionnantes avec nos pères, comme moi, je m'éduque chaque jour en ayant des discussions passionnantes avec vous.
Merci beaucoup pour tout ton travail, vraiment, du fond du cœur. Merci de nous apporter ces outils-là, parce que je pense que ton premier livre, on le vend, mais constamment, il est en pile constamment, et je suis toujours très rassurée de savoir que ce livre arrive dans les espaces où des enfants évoluent, ou des grands, parce que je suis persuadée que même ton premier tome, il est très accessible pour les grands.
Oui, j'aurais pu commencer par ça, c'est-à-dire, et la suite, mais c'est... Les parents me disaient, on a appris tellement de choses en lisant le livre pour les enfants, et c'est là où je me suis dit, mais en fait... Évidemment, en fait.
Bah, évidemment.
Il faut que... Voilà, il y a une personne, bah, je ne l'ai pas encore postée, qui a lu voilà, le bouquin, qui m'a dit, écoute, j'ai 47 ans, je suis docteur en médecine, et j'ai appris tellement, tellement, tellement de trucs.
Bah, tant mieux. Voilà. Apprenez, continuez d'apprendre, et qu'on détruise le... Comment tu disais,
la sexo à papa, là,
c'est fini. Pah, c'est fini, ça. Ouais. C'était avant Charline Vermont. Merci beaucoup, Charline.
Merci, Sozy.
Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Charline Vermont à l'occasion de la publication de son ouvrage « Corps, amour, sexualité, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions » aux éditions Albin Michel. L'Affranchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchi Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.